les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Poésie ininterrompue. Michel Métaille est poète, né en 1950. Elle vit dans le Berry où elle cultive son jardin et prépare des performances très attendues sur la scène poétique française. La création verbale, les mots comme une sorte de matière. La création verbale qui existe spontanément dans la société de façon anonyme l'intéresse. La matière des mots déposée, disposée, ordonnée par les dictionnaires. Elle s'appuie sur l'objectivité de ce matériau et non pas sur la subjectivité d'une inspiration, idée qu'elle récuse. À l'époque de cette émission, elle appuyait sa pratique poétique sur la performance orale, à travers l'acte de lire ou de dire des morceaux, des pages de dictionnaires.
Michel Métaille, il me semble, à l'audition de cette semaine, que vous avez un goût particulier pour les dictionnaires. Comment les abordez-vous ?
Bien, j'aborde le dictionnaire sous plusieurs aspects. D'abord, c'est un outil de travail. La plupart des textes que j'écris sont toujours faits à partir des dictionnaires. C'est pourquoi j'ai choisi d'en donner des lectures pendant cette semaine. J'ai l'impression qu'on considère souvent qu'aller regarder dans le dictionnaire, c'est manquer de culture. Et je trouve ça très, très amusant. Et en fait, le dictionnaire, enfin, peut être une source de lecture tellement... Enfin, c'est souvent classé par exemple par ordre alphabétique. Et cela suscite des associations d'idées qui sont parfois drôles, parfois étranges, parfois absurdes. Ce ne sont pas les définitions qui m'intéressent, c'est plutôt l'enchaînement des mots, les listes, disons. C'est ce que je cherchais à faire pendant toute cette semaine, où dans chaque dictionnaire dont je lis des extraits, je suis toujours partie d'un mot qui avait un rapport proche ou lointain avec la littérature. Alors le mot livre, le mot poésie, le mot littérature, le mot poète, le mot écrire.
Mais partant de ces mots, vous avez été conduite à lire la liste des mots qui suivaient précisément ces mots.
Voilà,
et oui. C'est le rapprochement de ce mot choisi au départ, poésie ou littérature, qui, par sa cocasserie ou ses côtés tout à fait inattendus, c'est le côté « je » qui vous intéresse.
Oui, il y a cet aspect enfin, vraiment ludique qui m'intéresse beaucoup. Et en même temps, le phénomène de la lecture qui se superpose à cela. Parce qu'évidemment, le ton... avec lequel on lit un dictionnaire, peut le rendre drôle, peut le rendre tragique. C'est une chose qui se superpose, en fait, au texte, qui peut être complètement indépendante, qui peut être décidée au départ et donner une vision du texte totalement différente.
Par le poids des répétitions, des accumulations...
Oui, par exemple, quand je lis des extraits du dictionnaire des rimes, bon, il est évident que cette répétition sans arrêt, puisque là j'ai pris les mots qui se terminaient par « eumant », cette répétition continuelle... Enfin, vraiment, de la rime donne un aspect, enfin, je dirais, le mot peut-être un peu prétentieux, mais enfin, presque musical, une forme presque musicale à un dictionnaire qui est censé être un outil extrêmement froid.
Vous cherchez
et
à lui enlever sa neutralité, en quelque sorte.
Oui, parce qu'il n'est pas neutre. Il n'est pas neutre, mais de toute façon, il a toujours un objectif, c'est-à-dire qu'un dictionnaire des rimes est très différent d'un dictionnaire des mots croisés ou d'un petit Larousse, parce que son objectif n'est pas le même. Et c'est par là, en fait, qu'il n'est pas neutre. Parce qu'il élimine, parce qu'il choisit, parce qu'il il s'adresse à une catégorie de mots bien particulière, par exemple comme dans le dictionnaire des argots, de l'argot, ou dans le dictionnaire des onomatopées, ou des choses comme ça.
Il n'est pas neutre, vraisemblablement non plus, d'une période à une autre.
Non, parce que, en fait, il y a des dictionnaires qui évitent systématiquement de citer toute une partie des mots qui sont pourtant dans notre langage, mais qui sont considérés comme n'étant pas suffisamment littéraires, par exemple, enfin, comme étant du langage parlé, qui ne sont pas introduits dans certains dictionnaires. C'est pourquoi j'ai lu, par exemple, la liste des ajouts au Petit Larousse 1979, parce qu'il est amusant de constater que les mots qu'on introduit cette année dans le Petit Larousse, on les emploie depuis des années. Enfin. Et en fait, c'est ce qui est très intéressant dans les dictionnaires, c'est l'usage. On force toujours la porte des dictionnaires, finalement. Parce qu'il y a des mots qui sont créés, on ne sait jamais. Enfin, c'est une création tout à fait anonyme. On ne sait jamais qui lance un mot.
Ils sont toujours introduits avec retard.
Avec retard, et on force les portes parce que on a l'impression que le dictionnaire ne peut pas faire autrement à un moment donné que d'introduire ce mot-là. Et dans toute l'histoire des dictionnaires, c'est ce qui s'est passé. Au XVIIIe siècle, l'Académie a refusé tout un tas de mots, mais qui sont rentrés quand même à un moment donné en forçant les portes parce que l'usage les avait répandus. Et c'est cet aspect très vivant des mots qui est très intéressant justement,
mais
parce que c'est extrêmement vivant.
Introduire une notion de dérision du dictionnaire.
Ah, pas du tout, parce que
c'est
au contraire une chose.
C'est plutôt le sublimer, il me
semble. Ah oui, je veux pas le. Non, non, le tourner en dérision, absolument pas, non. C'est un outil pour lequel j'ai beaucoup de respect. Et... oui, non, c'est au contraire, peut-être pour le mettre en valeur et pour voir qu'on peut trouver autre chose, justement, qu'on peut peut-être aller un petit peu plus loin, justement, à l'égard d'un dictionnaire, que simplement de l'ouvrir quand on ne se souvient plus tout à fait de l'orthographe d'un mot.
Cela dit, vous ne vous contentez pas de choisir des pages de dictionnaire ou des mots dans les dictionnaires ou des séries de mots ou des listes et de les mettre sur le papier. Votre travail ne s'arrête pas là. Vous ne considérez, je crois, votre travail comme totalement abouti, vos poèmes, vos textes, que lorsqu'ils sont lus et lorsqu'ils sont lus par vous. Je voudrais savoir comment vous concevez cette lecture. Est-ce que vous la concevez comme une retranscription dans le temps et dans l'espace de pages de dictionnaire, ou est-ce que vous acceptez de les compléter par Michel Métaille en train de lire, par introduire une certaine subjectivité face
oui,
à cette neutralité
qu'on, on
du
ne peut
dictionnaire
pas, on ne peut pas refuser enfin, d'y introduire une subjectivité. À partir du moment où on s'engage dans la lecture, c'est un phénomène qui est physique. Je veux dire, c'est sa voix qui a un timbre particulier, qui a des possibilités particulières, donc on est engagé enfin totalement physiquement, c'est un phénomène physique la lecture. Et en plus je pense que ce qui est intéressant c'est que l'œuvre existe une fois dans un contexte donné, dans un temps donné face à un auditoire particulier, et après c'est fini, elle a existé, bon c'est fini, ça y est, elle a eu lieu pendant cette date-là, à ce moment-là, c'était bien ou c'était mal, peu importe, mais je veux dire ça a eu lieu. Et après à chaque fois la chose est à refaire, parce que le public n'est pas le même, parce que... Alors finalement, le livre, bon, m'apparaît comme une facilité, bien sûr, on peut... Et surtout, c'est pas du tout satisfaisant, parce qu'on ne connaît pas les réactions des gens. Et c'est justement cette sorte d'interaction qu'il y a face à un public qui est vraiment enfin, intéressante. En fait, la lecture est une chose qui me semble enfin, venir d'elle-même, parce que la poésie est constitué en fait d'un aspect sémantique, donc c'est l'utilisation que je fais des mots et l'outil de travail que sont les dictionnaires. Mais il y a aussi un aspect purement sonore qui a toujours existé dans la poésie, et sous certaines formes qu'on a appelées à l'époque le vers, la rime, etc. Et je crois qu'il y a une dimension justement à donner à un texte par la lecture. Le texte écrit n'est pas satisfaisant parce qu'il néglige, enfin on ne peut pas traduire sur le papier des choses qui appartiennent à un autre sens qui est le sens, enfin le sens de l'ouïe.
Mais cela signifie tout de même que vous avez, dès le départ, conscience d'avoir à aider le texte à passer vers l'auditoire et non pas à le lire simplement, même face à un public, pour vous.
Ce n'est pas l'aider,
prise...
non, je ne cherche pas à l'aider, oui. Il est fait pour être lu. Enfin, il est fait pour ça. Je veux dire, ça fait partie de la donnée, enfin, du point de départ. Il est fait pour être lu. Alors, le texte écrit, c'est un aide-mémoire, c'est tout.
C'est une
il doit
partition.
S'ajouter là-dessus. Voilà, exactement. Enfin, quand on lit une partition de Beethoven, encore plus une partition de musique contemporaine, quand on voit que c'est noté souvent sur du papier
oui.
millimétré, c'est peu, c'est peu représentatif. Alors, évidemment, moi, le texte écrit ne sert... Qu'à noter l'enchaînement des mots, ce serait possible de les mémoriser, mais enfin, je veux dire, la tradition orale ne m'intéresse pas du tout. Mais ce qui m'intéresse, c'est cette dimension supplémentaire qui fait qu'il y a un débit de lecture, qu'il y a des hauteurs. On ne peut pas négliger cet aspect qui est quand même enfin, fondamental en poésie. Un texte qui est lu à haute voix a tout à fait une autre dimension qu'un texte lu d'une façon intérieure.
Et surtout, partant d'une page en principe neutre, comme l'est une page de dictionnaire. Donc... partant de là, vous cherchez à lui insuffler autre chose en la lisant à haute voix. C'est cela.
Oui, si je choisis...
À la métamorphoser en un poème.
Oui, parce que si je choisis des dictionnaires, c'était justement pour montrer que si l'on applique à une page de dictionnaire un type de lecture particulier, on peut faire sortir autre chose de cette liste de mots. Enfin, des aspects rythmiques très forts, je crois, par exemple dans le dictionnaire des mots croisés. avec cette succession de mots PPP, poésie, pognon, pogne, etc. Ce sont des... En fait, on retrouve dans le dictionnaire, je dirais presque des figures de rhétorique qui existent en poésie. Cela vient du classement alphabétique, parce qu'évidemment, bon, voilà, tous les mots qui commencent par P, qui ont le même nombre de lettres et tout ça, ça donne une sorte de rythme à l'intérieur des listes qui sont dans le dictionnaire. Elles ne sont pas recherchées, d'ailleurs. Il n'est pas fait dans ce sens-là. Et c'est ce qui est intéressant aussi. C'est peut-être ce décalage qu'il y a entre l'objet qui est un dictionnaire, qui est simplement un outil de travail, finalement, généralement considéré comme tel, et une lecture qu'on peut appliquer. À ce moment-là, il sort un petit peu
De son contexte initial.
De son contexte, voilà.
Est-ce que c'est le plaisir des sons qui intervient dans votre choix d'une page ou d'une autre, ou est-ce que c'est le choix des mots et de la sémantique qui prime ?
Dans ce cas-là, ça a été le choix de la sémantique, puisque le propos de l'émission a été d'avoir 70 minutes d'intervention, et la moitié du temps consacrée à des œuvres d'autres auteurs. J'ai choisi des dictionnaires et je suis toujours partie d'un mot qui avait un rapport plus ou moins proche avec la littérature. Je suis partie soit du mot poésie, soit du mot littérairement, soit du mot dans le dictionnaire du Scrabble, du mot écrivez. Et j'ai déterminé un mot d'arrivée. Alors, par exemple, pour le dictionnaire de l'argot, je suis partie du mot livre et j'ai trouvé un mot qui se rapprochait du phénomène littéraire qui était mise en scène, qui avait un autre sens, bien sûr, en argot que le sens théâtral. Et j'ai réglé mon débit de lecture, en fait, entre ces deux mots, tous les mots que j'avais à lire, entre ces deux extrêmes, devaient être compris dans la tranche de temps qui m'était impartie, qui devait être de 4 minutes. C'est ce qui a décidé, en fait, c'est une chose tout à fait extérieure, une sorte de système que je me suis donné, et c'est ce qui a réglé mon débit. Il fallait faire rentrer cette liste de mots. Alors parfois c'était long, parfois c'était relativement court, et j'ai réglé mon débit là-dessus.
Vous avez utilisé le mot « système ». Comment entendez-vous système dans ce cas particulier ? Vous imposez pour chaque texte une sorte de directive, de loi ou
dans les textes que j'écris ou dans les textes que j'écris ? Oui, dans les textes que j'écris, il y a toujours enfin un aspect de système. C'est-à-dire, je choisis le système. Une loi grammaticale, par exemple, la conjugaison dans la main chaude, c'est une pièce, enfin j'appelle ça une pièce entre guillemets, qui a été écrite à l'infinitif. Je l'intitule aussi « Description d'un dialogue », c'est-à-dire que j'ai relevé tous les termes qui concernaient, de près ou de loin, un dialogue. Quand on lit un ouvrage, un personnage intervient, il y a la phrase enfin, qu'il dit, et après on trouve « dit-il »,« répondit-il »,« s'exclama-t-il », etc. J'ai relevé tous ces verbes et je les ai classés en partant du plus faible qui était « émettre » jusqu'au verbe « tempêter » qui
me semblait... Classé par lettre ?
Non, pas du tout.
Par longueur,
classé,
par,
comme par, l'indique ouais. La main chaude, c'est ce jeu où on superpose les mains, n'est-ce pas ?
Oui.
Il y avait toujours, à chaque mot nouveau qui était introduit, une sorte de montée. C'est une sorte, disons, enfin, pour avoir une. Dans l'intensité et dans le sens aussi. Enfin, c'est difficilement.
D'où une lecture pages, qui monte aussi.
Oui, la lecture se fait souvent en crescendo, c'est-à-dire que je pars. Très, très, très doucement pour arriver au plus fort de la voix. Ça doit couvrir, essayer de couvrir l'ambitus de ma voix parlée. Pas de la voix chantée, bien sûr, parce que l'ambitus de la voix chantée serait beaucoup plus grand, mais ça doit essayer de couvrir l'ambitus de la voix parlée. Depuis le chuchotement le plus imperceptible jusqu'au plus fort hurlement.
Donc il y a toujours à la base une volonté de mise en application d'un système grammatical ou totalement inventé par vous ?
Oui, c'est-à-dire un refus, enfin, au moment de l'écriture, un refus du hasard, de notions enfin, dont on entend souvent parler en poésie, d'inspiration, de choses comme ça. C'est pourquoi je me donne un système de départ. Mais, je veux dire, je trouve ça presque insuffisant, on en a parlé, à cause de la dimension qu'il manque au texte, et la subjectivité, disons une chose plus instinctive, entre en action à ce moment-là au niveau de la lecture.
Oui,
c'est pour ça que je suis en fait entre deux zones, n'appartient pas à la poésie sonore, puisque la poésie a toujours été sonore. Hein. C'est le propos de la poésie, justement, c'est d'être sonore, c'est un de ses propos. C'est-à-dire qu'à un aspect sémantique, elle superpose un aspect sonore.
Oui, enfin,
et elle n'est pas. Enfin, oui, c'est discutable.
Oui, parce qu'elle est sonore intérieurement, mais elle n'est pas toujours sonore réellement dans le sens du son projeté dans l'espace.
Voilà, c'est ça.
Elle entend le son intérieurement parfois, en effet, dans la poésie, et lorsqu'elle a ce but. Mais, mais elle n'est pas nécessairement faite pour être projetée.
Non, elle n'est pas faite pour être projetée, mais elle est sonore dans la mesure où, par exemple, le phénomène de la rime, enfin, vraiment qui a prévalu en poésie pendant des siècles, est tout de même quelque chose de très sonore. L'apophonie, enfin, je ne sais pas, quand Baudelaire dit « horrible ville, horrible vie », même si c'est une lecture intérieure, il y a tout de même un côté sonore. On joue, c'est-à-dire qu'on rapproche des mots qui n'ont... Ils sont rapprochés uniquement parce qu'ils ont une affinité sonore. Et c'est ce qui crée peut-être une image poétique. C'est ce qui guide parfois l'image.
Votre utilisation des systèmes vous écarte alors à ce moment-là du fait que vous êtes amené à lire vos textes, vous écarte, me semble-t-il, totalement des intentions et des propos d'Oulipo. Puisque, en passant au niveau de la lecture, vous réintroduisez Michel Métaille, une certaine subjectivité, une certaine musicalité. Est-ce bien cela?
Oui, je ne refuse absolument pas.
Qui vous conduit à vous écarter totalement et délibérément du système sec, si je puis dire, sans aucune notion péjorative dans ce terme, que Oulipo veut conserver.
Oui, je cherche à ajouter, enfin, effectivement, quelque chose en plus.
Et ce plus, c'est quoi?
Pour moi, c'est la lecture.
C'est variable chaque texte. C'est...
Oui, c'est justement
c'est
le fait
musique,
que la répétition...
L'humour,
oui. Ça, je pense qu'il ne faut pas se prendre trop au sérieux. C'est pas parce qu'on fait de la poésie qu'il faut se tenir la tête à deux mains. Alors, de toute façon, l'humour. Et puis, peut-être une approche d'une certaine musicalité, justement. Parce que quand je répète des mots... Par exemple, dans le texte qui s'appelle « La boîte », mettre la boîte dans la boîte 2, la boîte vibère dans la boîte à œufs, etc., etc. Bon, il arrive un moment où on décroche, enfin, je suppose, je ne suis que lecteur, mais où l'auditeur doit décrocher d'une certaine façon par rapport au sens. L'enchaînement se justifie toujours plus ou moins par le sens.
Vous voulez dire que l'auditeur, à ce moment-là, ne perçoit plus que les sons, la sonorité même des
un rythme surtout,
le
je
rythme.
Crois. Enfin...
Oui.
Je ne suis pas auditaire, mais enfin, du moins, c'est ce que je cherche à faire ressortir. À travers, de toute façon, l'utilisation systématique, dans ce cas-là, de toutes les locutions.
Mais ça doit être le cas également du complément du nom, alors
Oui, mais complément de nom, ça dépend un petit peu des passages, en fait. Il y a des passages qui sont volontairement plus sonores, qui sont des passages uniquement basés sur la rime. Par exemple, la rime en début de mot, tout un passage où les mots introduits sont tous des mots qui commencent par « ad ». Ce qui fait que dans une lecture rapide, on finit par perdre complètement l'enchaînement.
Il y a un choix dans ce... C'est un très long texte, je crois.
Ad.
Vous en êtes à je ne sais pas combien
4000 vers à peu près,
4000
oui.
vers, et ce n'est pas terminé.
Non, pas du tout. Ce sera un texte qui ne sera jamais terminé, en fait, parce que je veux comme une modulation, et je pense que ça peut passer à travers toutes les zones du langage, c'est-à-dire le domaine technique, le domaine de l'argot, le domaine littéraire. C'est une sorte de quête, disons. J'ai voulu... Au départ, employer tous les noms communs qui existaient dans la langue française.
C'est-à-dire que le hasard n'intervient pas du tout dans votre choix de substantif que vous introduisez
Non,
dans
c'est toujours
vers.
Justifié. Oui, il faut peut-être expliquer de quoi il s'agit exactement. Complément de nom est basé sur un mot allemand que l'on cite toujours pour montrer la possibilité qu'il y a dans cette langue de créer des noms communs. En fait, ça ne fait qu'un seul mot. Ce mot en allemand, c'est « Der Donau-Damm-Schifffahrtsgesellschaftskapitän ». C'est-à-dire, traduit en français, en fait, il y a six mots, « le capitaine de la compagnie des voyages en bateau à vapeur du Danube ». J'ai ces six éléments. En début de vers, j'introduis un élément nouveau. Et pour garder mon équilibre de six, parce qu'évidemment, très vite, j'arriverai à un alignement de mots considérables pour un même vers, je fais tomber un élément à la fin. Ce qui fait que le deuxième vers étant la femme du capitaine, le mot « Danube », qui est d'ailleurs le seul nom propre qui soit introduit dans complément de nom,
disparaît.
Il va disparaître au second vers. Et chaque mot introduit par la gauche va pousser un autre mot qui va tomber par la droite. Et le mot n'est utilisé qu'une seule fois, c'est-à-dire il est introduit une seule fois, il occupe la place numéro 1, numéro 2, 3, 4, 5, 6,
c'est cela.
Il sort, et en fait j'ai un fichier, je pourrais dire presque un dictionnaire, des mots que j'ai utilisés dans complément de nom, et le mot, une fois qu'il a été utilisé ne réapparaît jamais.
Mais alors qu'est-ce qui vous dicte l'entrée du mot en début de vers?
Eh bien, c'est ça, c'est soit une association avec le mot précédent. Ça dépend, à ce moment-là, je superpose tout
un
tas de systèmes.
Il n'y a pas un système, si ?
Si, voilà, le système, en fait, je veux dire, il y a une sorte de matrice qui est donnée, c'est ces six mots qui forment un vers. Et à partir du moment où j'introduis un nouveau mot à chaque vers, j'ai superposé tout un tas de systèmes. C'est-à-dire que je réemploie, par exemple, des figures de rhétorique. j'utilise une figure, entre autres, qu'on appelait la catacrèse. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'emploie le terme « aile d'un château », j'emploie le mot « aile » au sens figuré. On imagine très bien ce que peut être l'aile d'un château. Et je vais me servir du mot « aile ». Je peux le considérer par rapport au vers précédent au sens figuré, mais je peux considérer le mot décontexté au sens propre, c'est-à-dire l'aile d'un oiseau. Et au vers suivant, par exemple, je vais introduire le battement de l'aile du château. Et à ce moment-là, le mot « aile » m'a servi de charnière et la plaque tournante qui me permet d'aller dans un autre domaine qui va être...
Un peu comme...
Comme la modulation en musique, oui. En fait.
Et comme Raymond Roussel l'aurait pratiqué aussi.
Oui, d'une certaine façon, oui. Des associations.
Pour aboutir à quelque chose d'ailleurs radicalement différent.
Mais... Oui, mais effectivement, il avait des systèmes très établis pour écrire ses livres. Et alors tout un tas de systèmes, en général il y a tous ceux qui sont répertoriés par la rhétorique, mais en fait il y a des systèmes que j'invente, il y a des accumulations de synonymes, il y a des rimes, non pas des rimes en fin de vers, mais des rimes sur tout le vers, des rimes en début de mot, des rimes en fin de mot. Il y a tout un tas de systèmes, il y a le blocage du système qui arrive à un moment, c'est-à-dire que les mots rentrent mais ne sortent plus. On peut inventer tout un tas de choses en définitive, tout un tas de nouvelles figures. Il y a, par exemple, un passage en apophonie où ce sont des mots de 5 lettres qui sont introduits et à chaque vers, il n'y a qu'une lettre qui change. Alors, par exemple, si mes souvenirs sont bons, par exemple, le cirse, le corse, le i devient o, le torse, c'est le c qui devient t. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la modulation générale, en fait, il y a une autre modulation où il n'y a, par rapport au nombre de lettres, qu'une lettre qui change. Et j'ai écrit à peu près 80 vers comme ça. Il y a un autre système, par exemple, il y a un système qui peut apparaître comme tel en français, sont les sigles. Enfin, on a vraiment l'impression que les sigles sont un système dans le système, d'une certaine façon. J'ai fait un passage de complément de nom en sigle, et le dernier vers de ce passage se termine par une liste impressionnante de significations du sigle, où finalement on arrive à s'apercevoir que on ne sait plus de quoi on parle, justement, quand on n'emploie que les sigles. Et comme le dernier mot a des significations en tant que sigle en anglais, ça me sert de plaque tournante et j'ai écrit un passage en franglais à la suite. Je suis passée dans des zones... J'ai lu, par exemple, pendant cette semaine, un extrait en patois berrichon, par exemple. Parce que j'ai eu un mot, le pré, qui m'a servi. C'était, je crois, le pré de la logique. Donc, parce que là, j'ai fait des sortes d'apocopes. Le mot pré existe, le mot logique existe et le mot pré-logique aussi. J'ai séparé les mots d'une certaine façon. Par exemple, j'ai dit la radio, l'auto de la radio, parce qu'en fait, il y a autoradio qui existe. C'est tout un tas de petits jeux, disons, à partir du langage. Et le mot pré, par exemple, qui était donc pré-logique, m'a donné l'ouverture vers le patois, par exemple, le patois berrichon, parce que le pré, je l'ai considéré sous l'angle du pré de la terre, du champ. Et à ce moment-là, j'ai introduit un passage. Et en fait, je suis en train de réaliser un schéma d'analyse de compléments de noms, d'analyse et de traduction, parce que c'est un texte... Enfin, la poésie a toujours été plus ou moins intraduisible, mais c'est un texte qui est parfaitement intraduisible. Il n'est possible qu'en français, parce que si je joue sur un mot, par exemple pour son aspect rythmique ou quelque chose comme ça, et il va me servir de plaque tournante pour aller dans un autre domaine, ce ne sera pas vrai pour l'allemand. Et alors, en fait, j'ai réalisé ce schéma qui indique que de tel vers à tel vers, tel système est employé. De tel autre à tel autre, je passe dans le patois, berrichon ou autre chose, ou le patois provençal, etc. Et c'est une sorte de...
Chaque zone étant de quelle longueur
C'est tout à fait variable. Il n'y a pas de... Ça, pour l'instant, c'est absolument variable. Et alors, c'est une sorte de parcours, justement, en cherchant toujours à utiliser... Ça, c'est un petit peu, la quête impossible, bien sûr. Mais tous les mots du langage, tous les mots qui ont été créés, une sorte de répertoire réorganisé différemment, bien sûr pas à la façon du dictionnaire, mais par association d'idées, par tout un tas de processus qui se superposent au système général. Et je pense que quelqu'un pourrait très bien, si un jour j'en ai assez, continuer complément de nom. Parce que je veux dire, la chose est donnée. En fait, il n'y a pas de raison que ça s'arrête.
Vous disiez qu'il n'y aura jamais deux fois le même mot. De même, il n'y aura jamais deux fois le même système à l'intérieur du système général.
C'est possible, il peut y avoir un autre passage en rime, mais qui s'appliquera à un autre type de rime. Ça n'est absolument pas exclu qu'il y ait des rappels par endroit. De même qu'il est possible que je fasse un autre passage en sigle. Par exemple, je suis en ce moment en train d'écrire un passage en mots composés, ce qui me double la longueur des vers. En fait, ça me fait 12 mots par vers, finalement. Parce que comme moissonneuse, batteuse, ou des choses comme ça. Et à l'intérieur de ces presque 2000 mots que j'ai répertoriés et que j'essaye de classer, je peux retrouver des sortes de rappels de ce que j'ai déjà fait, avec des mots qui n'étaient pas des mots composés, c'est-à-dire oui. réutiliser certains systèmes.
C'est une tâche à laquelle vous vous adonnez quotidiennement, de façon systématique ou...
Oh, c'est très variable, j'y touche pas avec vous pendant des semaines, même pendant des mois, et puis quelquefois je fais... C'est-à-dire que maintenant j'ai été amenée à organiser mon travail d'une façon différente.
C'est l'idée d'un système qui vous conduit à reprendre le travail brusquement
Oh non, c'est le goût, c'est parce que j'ai acheté un nouveau dictionnaire et d'un seul coup, parce que j'en ai trouvé un, que je trouve que les mots sont très intéressants, sont très beaux.
Combien est-ce que vous avez de dictionnaires?
Je ne sais pas exactement, mais enfin, sans compter les dictionnaires, enfin, je veux dire, de la langue française, enfin, usuelle, j'en ai plus de 100 qui sont des dictionnaires, enfin, tout à fait spéciaux ou très techniques, ou comme le dictionnaire des onomatopées.
En français, tous
En français, non, j'en ai quelques-uns, hein, qui est en... Non, j'ai plusieurs dictionnaires aussi de patois étrangers, du dialecte viennois, j'ai un dictionnaire d'écossais, et un dictionnaire que j'aime beaucoup, qui est le dictionnaire des clans et des tartans d'Écosse. Et sur chaque page de droite... Il y a la photo du tissu, enfin, qui est du tartan. Et sur la page de gauche, il y a le clan auquel appartient ce tartan. Il y a la devise du clan et son histoire. Ça, je trouve ça un très, très beau, un très bel ouvrage.
Mais alors là, on bascule plutôt dans les listes, non?
Oui, c'est très proche, enfin.
C'est très proche.
Effectivement,
le fromage
puisque complément...
à Bretagne, du reste, est oui. plus une liste.
Oui,
enfin, c'est plus
c'est
une
ça.
Liste qu'un dictionnaire, évidemment. Enfin,
une liste qui se lit verticalement, par exemple, complément non dans une lecture intérieure, peut se lire verticalement. Là où ça change, c'est dans une lecture justement à haute voix, parce qu'il y a ce phénomène horizontal qui intervient, de la répétition, répétition entre guillemets, parce que c'est pas vraiment une répétition, enfin c'est une modulation. Il y a à chaque fois un léger changement parce que les mots sont décalés et parce qu'ils sont poussés par le nouveau qui est introduit.
Mais dans votre lecture, vous dépassez... les sons provenant simplement des mots tels qu'ils sont les uns à côté des autres, et vous y introduisez des hauteurs de ton, des oui. intensités différentes. Cela résulte de quoi à ce moment-là
Souvent dans mes lectures, la sémantique n'intervient pas. C'est-à-dire que je me fixe un type de lecture. Je me dis par exemple, bon, bah, je dois faire une représentation pendant une heure.
Oui.
Je vais lire, je vais partir du chuchotement pour arriver...
Donc la sémantique, son,
c'est tout à fait indépendant parce que j'ai choisi un passage. Bon, parce que généralement, je ne relis jamais deux fois le même passage. Je lis toujours un passage que je n'avais pas encore lu. Et en fait, ça se superpose. C'est un autre système qui se superpose à celui-là et qui est tout à fait indépendant et qui fait justement peut-être que l'on perçoit les mots d'une façon différente parce qu'ils ne sont pas dits comme on les entend
attendue.
Habituellement.
Oui,
et c'est peut-être ce décalage qui est justement source enfin de phénomènes poétiques justement parce qu'il y a un décalage. Parce qu'évidemment, si je lis avec beaucoup de violence un texte qui va employer uniquement enfin, des mots d'amour ou d'autre chose, il va y avoir un décalage qui va apparaître, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre.
Est-ce que vous avez conscience à ce moment-là de faire de la musique ou de rester dans le domaine de la poésie?
Je ne fais pas de musique, non. La musique m'intéresse beaucoup, mais ce que je pense surtout, c'est qu'à partir du moment où je lis un texte, bon, j'ai une voix, je ne suis absolument pas chanteuse ni rien, mais je pense que j'essaye du moins d'utiliser au maximum les possibilités de ma voix. Je pense que j'en suis encore très loin, finalement. Je suis encore au stade de la recherche. C'est-à-dire que quand on lit toujours enfin, sur le même ton. Il y a très très peu de différenciation, à la fois dans le débit, dans les hauteurs, dans toutes ces choses-là. Alors c'est dommage, puisque finalement, on a une voix, on a un instrument, autant s'en servir. Et en plus, quand ça passe par un micro, bon, ben... Le micro n'est pas simplement un moyen d'amplification, il peut être aussi quelque chose avec lequel on joue. En s'en approchant, en s'en éloignant, en utilisant ce qu'il a de potentialité, enfin en tant que micro, disons. J'utilise toujours oui. le micro justement à cause des effets qu'il permet d'obtenir. Parce qu'évidemment, dans une lecture publique, dans une grande salle, si l'on chuchote, c'est peut-être perçu par les premiers rangs. Alors il y a effectivement peut-être moyen d'amplification, mais il n'est pas que cela, il peut servir d'outil. Parce qu'il y a un micro, la lecture est différente. Le phénomène du magnétophone, va fixer, va enregistrer une chose, et puis c'est fini, on ne peut plus. Alors on a parlé de l'interaction tout à l'heure, qui est
oui,
un phénomène
sûr, oui.
Qui m'intéresse beaucoup, enfin d'être face à un public et de le voir réagir, donc de réagir moi-même à cause de ses réactions finalement.
Votre lecture peut se modifier en fonction des réactions de votre auditoire.
Ah tout à fait, oui. par exemple, si je décidais de faire un très long passage en chuchoté, et s'il n'y a absolument pas de silence dans la salle, si on entend tout un tas de bruit annexe, je resterais moins longtemps sur ce passage chuchoté qui va nécessiter, justement... c'est peut-être un tort, il faudrait peut-être que je reste justement longtemps, que ce soit fixé et que je ne change pas. Enfin, j'aime beaucoup avoir cette sorte d'échange, un contact, enfin, avec l'auditoire.
C'est-à-dire que finalement, donc, vous bardez de quantité de systèmes, mais vous conservez la possibilité de modification au dernier moment, au moment crucial qu'est votre lecture.
Oui, bien sûr, et c'est ce que je trouve intéressant. Le système est bon. Enfin, moi, je refuse totalement le hasard et toutes ces choses-là, bien sûr. Enfin, et surtout la notion d'inspiration. Il me fait beaucoup rire maintenant, mais enfin... Mais je veux dire, il y a tout de même quelque chose qu'on ne peut pas noter, on ne peut pas tout systématiser de toute façon. Il reste un domaine, enfin, qui est celui de la sensibilité, qu'il faut essayer peut-être de faire passer d'une certaine façon.
Et des aléas du moment.
Voilà.
Michel Métaille a publié dans la revue L'Humidité. Parmi quelques publications orales de Michel Métaille, Biennale de Paris, 1973. Musique dans la rue, Aix-en-Provence, 1975. Festival de poésie sonore, organisé par Bernard Haitzik, Paris, 1976. Montréal, 1977. Galerie NRA, Paris, 1977. Bourges, 1978. Saint-Maur des Fossés, 1978. Intervention de Michel Métaille à Radio France, RTB, Radio-Canada.
Thank you.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 17 décembre 1978.